Carnet de région.
L'actualité des radios associatives locales en Occitanie, Pyrénées, Méditerranée.
Bonjour à tous, bienvenue dans le carnet de région, l'actualité de la semaine en Occitanie, Pyrénées, Méditerranée. Ce journal vous est présenté par les radios associatives de la région, avec au sommaire cette semaine, la Ligue de l'enseignement signe un nouveau contrat avec le département de la Lozère pour mettre les mineurs non accompagnés à l'abri, un sujet de 48 FM. Profiter de la destruction imposée d'un bâtiment pour récupérer et recycler le matériel qui se trouvait à l'intérieur, c'est une initiative qui a été mise en place par la recyclerie de l'Odev dans l'Hérault, un sujet de Radio L'Odev. La zoothérapie, vous connaissez ? Une maison d'accueil spécialisée de Lozère a mis en place une mini-ferme dans son enceinte. Radio Bartas nous en dira plus dans ce journal. Un peu d'occitan aussi dans ce carnet de région avec le deuxième festival Taratatoc à Fleury-d'Aude dans l'Aude. Le maire de la commune nous en parlera en occitan dans le texte. Le festival Objectif Sud met le portugais et la lusophonie à l'honneur à Bédarieux dans l'Hérault jusqu'au 7 février, un sujet de Onda Pays. Et puis la culture se mêlera à la religion en fin de ce journal. Le 23e festival chrétien du cinéma rassemble catholiques et protestants à Montpellier dans l'Hérault jusqu'au samedi 1er février. Bienvenue dans le carnet de région, l'actualité d'Occitanie, Pyrénées, Méditerranée, présentée par les radios associatives de la région. La Ligue de l'enseignement signe un nouveau contrat de 4 ans avec le département pour mettre les mineurs non accompagnés à l'abri. La Lozère, comme les autres territoires, est obligée de prendre en charge les moins de 18 ans, françaises ou non. Le département doit ensuite faire une étude de leur situation et déterminer s'ils sont mineurs avant de les placer. En 2018, le département demande une première fois à la Ligue de l'enseignement de mettre à l'abri les nouveaux arrivés. Ils sont alors une dizaine. Nicolas Trottoin, secrétaire général de la Ligue de l'enseignement de Lozère.
C'était des phénomènes qui étaient à la marge, puisqu'il y avait à peu près entre 8 et 10 personnes qu'on accueillait. Donc ça, c'était gérable. Donc la mise à l'abri se faisait via des hébergements de type hôtellerie. Voilà. Mais quand on a commencé à dépasser la dizaine de ces jeunes, la quinzaine, avoir des jeunes mineurs non accompagnés qui se retrouvent seuls dans un hôtel, ça commence à être un petit peu compliqué à gérer.
Depuis, le nombre d'arrivées ne fait qu'augmenter. La Ligue de l'enseignement a dû développer son système d'accueil. Elle récupère les jeunes arrivés de jour comme de nuit, remplit une fiche de renseignement avant de prévenir le département qui peut alors débuter la procédure.
Un jeune, il peut rester entre, en gros, 5-6 jours jusqu'à 22-23 jours. La moyenne, pour nous, c'est autour de 23 jours aujourd'hui. Hein. Nous, on fait la partie technique, on va dire, de mise à l'abri. Hébergement, restauration, soins, accompagnement, transport... Et puis reconduite si jamais le jeune est considéré comme majeur. Quoi. Voilà. Je pense qu'il faut vraiment réintroduire de la solidarité, qu'il faut regarder, parce que c'est qu'une question de regard, quoi. C'est de regarder autrement.
Afin de les accueillir au mieux, la Ligue de l'enseignement souhaiterait mettre en place une discussion entre tous les partenaires du département pour un travail à l'unisson. En 2018, la Ligue de l'enseignement a accueilli une quarantaine de personnes. En 2019, ils étaient plus de 300. À l'Odev, ville nichée dans l'arrière-pays héraultais, la mémoire est tenace concernant les inondations de septembre 2015. À la suite de ces intempéries qui ont touché la commune, la municipalité a fait appel au don Barnier pour détruire une ancienne miellerie située le long d'un ruisseau qui a été touché à l'époque par une lame d'eau. Autour de cette destruction s'est mené un chantier pilote avec le recyclage lodévois. L'association a débarrassé le bâtiment de tout ce qui pouvait être valorisé. Sophie Costaud de la recyclerie revient sur ce projet au micro de Damien Sintès de Radio L'Odev.
Là, typiquement, on a récupéré en fait le maximum tout ce qui était démontable. Donc ça a été, c'est parti des chauffages avec une pompe à chaleur, puisque c'était ce qui chauffait cette maison-là. Tout ce qui est tuyaux, les tuyaux en PVC, tout ce qui était apparent, donc facilement démontable, les prises électriques, les interrupteurs. Et bien évidemment, en plus c'était une maison relativement récente, donc ce qui était très intéressant, c'était également tout ce qui est fenêtres, ouvrant, double vitrage en l'occurrence, donc des portes, que ce soit les portes intérieures, les portes extérieures. Donc là on avait les fenêtres avec des volets roulants intégrés. Et puis petit à petit on est remonté comme ça jusqu'à la toiture, puisqu'en fait on a donc récupéré toutes les tuiles. En plus on n'a pas eu de casse, donc on a quand même même eu une bonne proportion de récupération là-dessus. Et on est intervenu même au niveau de l'isolation. En l'occurrence, c'était de la fibre de bois en panneau, donc c'était assez facile à récupérer. Et puis les voliges, évidemment. Donc ce sont les planches de bois que l'on retrouve au niveau de la toiture. Grosso modo, je dirais, les sanitaires hein, aussi, je n'ai pas parlé, mais des lavabos, donc ça intègre toute la partie plomberie. Et donc ça représente 10 tonnes de matériaux en tout qui ont été sauvés de l'enfouissement, de la destruction. Alors ce qui est intéressant et important à savoir, c'est que là on a pu prendre effectivement ce chantier dès le départ, ce qui nous a permis d'évaluer dans un premier temps tout ce que l'on pouvait considérer, non pas comme déchets en fait, mais comme ressources. Parce que c'est ça qui est important à prendre en compte, c'est qu'en fait, là, on prélève ce qui aurait pu devenir du déchet, mais qui en réalité sont des ressources. C'est de pouvoir intervenir le plus tôt possible, dès le départ en fait, et bien en amont évidemment d'une démolition, voire on pourrait faire ce type d'intervention également sur des bâtiments qui sont en rénovation. À partir du moment où on sait ce qui va être enlevé, et donc c'est vraiment ça qui est intéressant. Puis donc ça, c'est vraiment un chantier pour nous qui a été un chantier pilote avec lequel on peut avoir maintenant des données très précises du temps que l'on met et le rapport entre la prestation et le temps passé pour faire ce genre de choses par rapport à une démolition pure. Et donc c'est là où on voit que ça a vraiment un aspect totalement positif à tous les niveaux. Et ça, on va voir ce type de fonctionnement dorénavant de plus en plus présent dans les constructions futures.
Le recyclage Lodévois a pour objectif de développer cette démarche sur les différents chantiers du territoire. Et les ressources récupérées sont désormais à la vente dans la boutique de la ressourcerie à Lodev. De son côté, la municipalité s'est engagée à rendre inconstructible la parcelle qui est désormais sa propriété. Ouverte en janvier 1994, la maison d'accueil spécialisée des Bancelles de Florac, en Lozère, a vocation à recevoir les adultes qui souffrent des handicaps les plus importants et qui ont besoin d'une assistance permanente dans tous les actes de la vie quotidienne. En juin 2019, le foyer de vie a innové, il a accueilli de nouveaux résidents à poils et à plumes, poules, chèvres, lapins, moutons. La mini-ferme permet à ce foyer de développer une nouvelle approche thérapeutique au sein de leur établissement, la zoothérapie. Stéphane Noigny, directeur de la maison d'accueil spécialisée des Bancelles.
Depuis peu, on a donc construit et créé une mini-ferme avec quelques petits animaux. Et répondu aux attentes d'un des personnels éducatifs qui souhaitait se former dans ce domaine, donc qui est actuellement en formation dans un centre de zoothérapie donc du côté de Grenoble. Notre objectif, c'est effectivement à la fois un espace occupationnel et ludique, on va dire, mais aussi et surtout une démarche thérapeutique. Il y a des résidents chez nous qui décompensent parfois, hein, qui présentent des comportements, problèmes, etc., plutôt très violents. Ces moments-là sont très difficiles à réguler. On est obligé parfois, comme ils le disent aussi, hein, de passer par l'apaisement médicamenteux, hein, indéniablement, le moins possible. Voilà. Et justement, pour réguler aussi cet aspect-là, l'animal a déjà fait ses preuves, hein, on n'a rien inventé dans ce domaine-là, mais c'est de s'appuyer sur cette activité-là pour anticiper justement ces moments de crise, hein, qui sont très compliqués, d'une part pour le résident, bien évidemment, mais aussi pour les encadrants. Voilà. Donc c'est une action qui débute. Notre spécialiste va bientôt arriver formé, donc c'est une prise en charge assez spécifique, hein, qui doit nous servir à trouver des phases d'apaisement et d'anticipation de ces moments compliqués. Nous avons des poules, des lapins, des colombes. On va dire que ce n'est pas les animaux les plus réceptifs, ceux-là. Sachant que l'âne, semble-t-il, est l'animal le plus adapté pour ça. Mais nous, pour l'instant, l'espace n'est pas très grand, donc on attaque doucement et on verra ensuite d'élargir notre cheptel si on l'estime nécessaire. Hein. On a essayé de prendre des animaux juste sevrés pour que déjà il y ait une habitude à l'espace de vie et notamment aux personnes aussi. L'apaisement peut être aussi visuel, hein, pas forcément tactile. Mais sinon, on a deux petits caprins et un ovin, coquinette. Elle est magnifique, coquinette. Popeye, donc, qui est un petit bouc, et Poncho, qui est un mouton d'Ouessant. Ouais, c'est parfois d'une intensité absolue. On parlait, voilà, qu'est-ce que vous souhaiteriez ? Voilà, continuer à avoir des personnes handicapées dans ce genre de situation qui ont la banane, quoi, parce que c'est le cas, quoi. Hein.
La mini-ferme du foyer de vie pour adultes de Florac en Lozère offre aux résidents une solution thérapeutique, douce et naturelle, via la zoothérapie, permettant de prévenir des états de crise et de créer des phases d'apaisement. Merci à Stéphane Nouani et à Cléo Esteban de Radio Barthas de nous avoir présenté cela. La deuxième édition de Taratatoc, le festival consacré à la chanson occitane, est prévue ce samedi 25 janvier. Il aura lieu dans la toute nouvelle salle Le Hangar à Fleury-d'Aude, dans l'Aude. L'occasion pour Christian Almerge du groupe Test d'inviter Claude Marty, Eric Frage et Jouanda. Radio Languedoc a demandé à Guy Sillet, le maire de la ville, les raisons de cet accueil.
C'est un concours des circonstances, c'est-à-dire qu'il y a rénové une salle de concerts et de fêtes au village de Fleury, qui s'appelle à Montrisco-Périgna, le dernier village al bord de la mar, a la limite de Rau. Abbiamo bastito anche lo salo della Sperto e abbiamo pensato che sarebbe un buon caso per cominciare la serie da concert che si bandevano già che lo salo della Sperto di montare un festival città. Allora abbiamo contattato Christian Almerge che aveva già per due coppe a due occasioni montato Taratatoc. Et c'est un tombat d'accord pour faire venir Canta Fleuris, en temps plat, les premiers qui ont créé dans le Reinado 620 la nouvelle canton gitane, Claudie Marti, Marc Debreix, et puis tous les qui ont canté también les campos Reinado plus tard, comme Eric Frach, et enfin, naturellement, le Christian Almerge. De tutta la festività lusitana e della canzone umoristica di Vei e abbiamo messo da me lì di Giube, Giovanna, per mostrare che la canzone lusitana si mantiene d'un paio la canzone nuova di un paio mai di 50 anni e se volendo che ancora continua e che attrappa il pubblico, che attrappa, che monta a organizzare spettacoli e lui finanza et mettre des mondes pour nous écouter, pour qu'ils marchent toujours, il y a toujours des mondes qui remplissent la salle pour écouter avec plaisir les cantaires qui cantent dans la langue nôtre.
À quel festival de cançons occitanes, le Taratatoc, il s'étendra donc le 17 et 25 de janvier. Où sera réalisé le festival, Guy Sillet?
Le festival sera dans la salle nouvelle qui s'appelle le Hangar, le hangar qui est sur la qui est à Fleuris dans le village à la sortie de Fleuris sur la route de Saint-Pierre de la Mar et l'avait organisé à quel festival avec la municipalité mais avait avec tous les cercles occitans dans le canton.
L'interview en occitan de Guy Sillet, maire de Fleury-d'Aude, enregistrée par Gisèle Nakonaski de Radio Languedoc. Le festival Taratatoc aura lieu samedi 25 janvier à Fleury-d'Aude. Objectif Sud présente sa quatrième saison de festival, aujourd'hui consacrée à la lusophonie. Pendant 15 jours, la ville de Bédarieux dans l'Hérault souffle le sud avec des événements tous les jours. Concerts, lectures, cinéma, conférences, arts culinaires, jeux, démonstrations de capoeira, fado ou bossa. Le collectif d'Objectif Sud, sous la direction du responsable culturel de la ville de Bédarieux, Alain Monchozou, propose plus de 17 événements. À cette occasion, l'adjoint délégué à la culture vient nous en tirer les principales lignes.
Du 24 janvier au 7 février, Bédarieux et une équipe de bénévoles engagés proposent une bonne quinzaine de rendez-vous variés pour donner une image joyeuse et bigarrée de ce monde lusophone. Dans le même esprit que les années précédentes, le programme évoquera la musique et le cinéma, la littérature et les jeux, les arts plastiques et la gastronomie. Si deux concerts figurent déjà au calendrier de la saison culturelle Bédarieux Grand Orbe, Candido et Cecilia d'abord, puis le quartet de Marcio Faraco, une nouveauté permettra de savourer des mets exotiques préparés par Vanessa et Olivia. Repas servis, précédés et accompagnés de musique, le samedi 25 au soir, pensez à réserver au 06 71 74 70 13 avant le 21 janvier. Le mardi suivant, Muriel Guenacia Chagas nous rapportera, en images et en musique, son Brésil colorido, tel qu'elle l'a traversé et vécu. Charme et dépaysement garantis. Et puis la médiathèque Max Croquette ne manquera pas d'offrir ses propositions. Des jeux pour tous, des contes pour petits et grands, deux conférences, le voyage des plantes, la langue portugaise, et enfin la poésie de Fernando Pessoa, par Lecture Vagabonde.
Le festival Objectif Sud, direction la Lusophonie, c'est jusqu'au vendredi 7 février, où comment apporter des ondes chaudes par temps froid pour toutes et tous. Le 23e festival chrétien du cinéma se déroule du vendredi 24 janvier au samedi 1er février à la salle Rabelais à Montpellier dans l'Hérault. À l'origine, l'initiative vient d'un prêtre et d'un pasteur montpelliérain. Aujourd'hui encore, catholiques et protestants œuvrent au sein de l'association Chrétiens et Cultures. 24 ans que ces amoureux du 7e art mettent en lumière les cinémas de la planète. Au micro de Radio Aviva, l'un des organisateurs, Denis Nové-Josserand.
Alors vous avez pu remarquer que nous appelons Festival Chrétien de Cinéma et non pas Festival de Cinéma Chrétien.
Car il peut y avoir la confusion.
Et elle est très importante. Parce qu'un festival de cinéma chrétien ne montre que des films parlant du christianisme et de son implication. Voilà. Alors qu'un cinéma chrétien de cinéma, c'est un regard chrétien sur un cinéma qui n'est pas forcément chrétien. Et donc, cette volonté de nommer les choses dans ce sens-là, Festival Chrétien de Cinéma, c'est, je vous ai parlé de deux hommes de rencontre, et c'est des hommes qui ont voulu aller à la rencontre du monde et à la rencontre des autres cultures. Donc le festival s'axe chaque année sur un thème prédéfini. Cette année, c'est Arts en vie, hein, art au pluriel, en vie au pluriel, donc plusieurs arts. Hein, le cinéma, on a le septième, en vie, et les vies, bah, y en a des millions, et des, voire même des milliards. Comment les arts nourrissent le cinéma et comment le cinéma se nourrit, enfin, valorise les arts. Et tout ça à travers des films du monde. Il y a un film iranien, il y a un film russe. Donc vous voyez, on essaye d'aller à la rencontre du monde au travers ces films pour que le monde parle aux chrétiens d'aujourd'hui et que les chrétiens, aujourd'hui, au lieu de construire des murs, comme ça se fait beaucoup, construisent des ponts.
Est-ce que c'est pour déconstruire des idées reçues qui existent dans une part des chrétiens ?
Non, ça serait aller s'opposer. Et en fait, nous voulons aller à la rencontre d'eux. On a un moment hésité à renommer ce festival parce que certains nous disaient que le mot chrétien était une gêne, était un obstacle. Et en fait, nous le gardons parce que c'est affirmer ce que nous sommes. Et aujourd'hui, on peut affirmer les choses en les partageant. On n'est pas obligé de s'opposer. Et nous, ce que voulons, c'est partager notre foi, partager notre regard en se nourrissant des cultures et voire même des autres, d'autres religions et comme je vous l'ai dit créer des liens entre les peuples du monde. Quand on s'intéresse à la culture du monde et quand on s'intéresse aux hommes, on a envie de connaître leur histoire et le cinéma c'est un bon langage à la fois d'histoire, de raconter des histoires. Hein, il y a l'histoire avec un grand H, et puis la petite histoire, raconter des histoires comme l'ont fait les romanciers. Et le cinéma est un reflet du monde dans lequel il est tourné.
Et le Festival Chrétien du Cinéma, c'est à retrouver jusqu'au samedi 1er février dans les salles obscures de Montpellier. Puis rendez-vous à Béziers le dimanche 2 février. Informations et modalités d'inscription sur le site internet chrétiensetcultures.com. C'est déjà la fin de ce carnet de région. Merci aux radios associatives qui ont aidé à le préparer et merci aux radios qui l'ont diffusé. Merci à toutes et tous de votre écoute et de votre fidélité et à la semaine prochaine.